Au nom de Prélude, je vous souhaite la bienvenue à tous à cette table ronde sur la création partagée, discuter la question de la création partagée en prison, notamment en prison. Je vous propose j'introduise tout de suite les personnes qu'on a invitées pour discuter ensemble de cette question. Alors, à côté de moi, il y a Marco Schlechten. Marco, tu es animateur responsable des animations socioculturel, artistique et socioculturel de façon générale aux établissements de la Plaine de l'Orbe dans le canton de Vaud. À ce titre, on a très souvent collaboré ensemble. L'association Prélude est un des partenaires principaux de l'association lorsqu'on lance un projet aux établissements de la Plaine de l'Orbe. Et voilà. À ses côtés, Delphine Horst, bienvenue. Delphine, tu es comédienne et metteuse en scène. Tu as fait un projet avec Prélude qui s'appelait une pièce de théâtre en 2007-2008 à Genève. Et ensuite, tu continues depuis plusieurs années à animer un atelier de théâtre à la prison de Bois-Vermay à Lausanne. Et voilà. Ensuite, nous avons Anne Toussaint, qui anime depuis de nombreuses années un atelier Les yeux de Louis à la prison de la santé à Paris, et dont on a présenté une série de productions durant ce festival. Bienvenue.
Merci.
Et puis Caroline Cacavalle, qui est elle aussi, qui vient de Marseille, où elle anime depuis une vingtaine d'années aussi un atelier permanent de cinéma, un studio de cinéma à l'intérieur de la prison des Baumettes à Marseille. Voilà, et dont on a aussi présenté une série de productions ce week-end. Et puis enfin Mathieu Menghini, bienvenue. Mathieu, tu es enseignant à la Haute École de Travail Social à Genève notamment. Tu enseignes en particulier les questions d'action culturelle, spécialisées dans les questions d'action culturelle à l'égard d'un public du travail social et à l'intention d'un public aussi du champ artistique. Et tu as été directeur de plusieurs théâtres, notamment du Théâtre du Pommier, du Théâtre du Crochetant à Montet et du Théâtre Forum Mérin, à Mérin. Et tu es aussi actif dans la médiation culturelle. Voilà. Je vous souhaite la bienvenue à tous.
Merci.
Et puis, je vous propose que l'on commence. Alors, voilà, le sujet de la création partagée, ça nous tenait à cœur, nous, Prélude, de poser cette question, parce que c'est un idéal qu'on cherche à mettre en œuvre dans les projets que nous proposons. C'est donc l'idée de mettre en place, pour ce qui concerne Prélude, des ateliers, des espaces de rencontre en prison entre des artistes professionnels, une rencontre entre des artistes professionnels et des personnes détenues. Et plus généralement, pour Prélude, c'est des personnes détenues, mais ça pourrait aussi être des personnes, de façon plus générale, qui ne sont pas ni les publics, ni les producteurs de création artistique, qui ne sont pas des publics ni des producteurs habituels de création artistique. C'est ça que nous cherchons à faire avec Prélude. La création partagée, comme son nom l'indique, il y a l'idée de création, qui est l'idée de produire une œuvre qui puisse, dans ces ateliers, dans ces espaces de rencontre, qui puisse être à terme diffusée à l'extérieur, qui est un des enjeux centraux pour Prélude. Et puis, l'autre question, c'est la question justement de ce partage qui a plein de dimensions, évidemment. Mais l'enjeu, disons, principal est de dire qu'à travers dans ces espaces de rencontre, un certain nombre d'instruments, de moyens, d'outils d'expression artistique peuvent être partagés par les artistes professionnels avec les personnes qui participent, par exemple, des personnes détenues. Voilà. Avec l'idée que la création qui est au terme, l'œuvre qui est produite par cette création partagée, soit co-écrite, co-produite à toutes les étapes de la création par toutes les personnes présentes dans ces ateliers. Voilà. Donc c'est un idéal, au sens où il y a évidemment tout plein de questions qui se posent sur les conditions de possibilité de faire de la création partagée. Voilà. Je vous proposerais que nous commencions avec quelques questions à Marco. Donc Marco Schlechtin qui travaille aux EPO, avec une première question qui nous a apparu importante en discutant ensemble, c'est de savoir si on fait de la création partagée, mais avant même qu'il y ait un atelier, quoi qu'on fasse dans ces ateliers, dans quelle mesure est-ce que l'initiative de mettre en place cet atelier est partagée? Parce qu'on peut partager dans l'atelier, mais on peut partager aussi en amont pour créer l'atelier qui soit le produit d'un partage. Donc c'est pour ça que j'aurais aimé te demander par rapport à ton travail quotidien, dans quelle mesure tu as affaire à des demandes de la part des personnes détenues, dans quelle mesure tu réponds à des demandes. Est-ce que ces demandes sont individuelles, collectives, ou s'il n'y a pas de demande, dans quelle mesure toi-même tu es celui qui incite, qui fait des propositions, et dans ce cas-là, comment tu fais pour évaluer les besoins, entre guillemets, qui peuvent être là avec les personnes avec qui tu travailles. Je sais pas
si... Oui, alors, on peut... Déjà, à l'heure actuelle, à l'intérieur, il y a déjà des ateliers qui existent. Des ateliers qui sont, depuis bien quelques années, qu'on essaye de maintenir avec des intervenants extérieurs. Et là, dans ces activités, on trouve des ateliers où il peut y avoir de la création ou suivre un cours de yoga ou de relaxologie. On a aussi un atelier Canal Déchaîné. Vous avez vu hier une projection de film. Cet atelier, ils font aussi de la création. En principe, d'habitude, ils sont plutôt diffusés pour l'interne. Et hier, exceptionnellement, on a pu sortir deux films des EPO qui ont été présentés hier soir. C'est la première fois que des images du Canal Déchaîné interne sortaient sur l'extérieur. Donc peut-être qu'on a peut-être mis un petit jalon, puis c'est peut-être une voie à poursuivre. Ensuite de ça, les demandes peuvent venir de l'intérieur et de l'extérieur. De l'intérieur, on peut suivre quand je reçois une demande d'un détenu, je vais déjà mesurer la possibilité de le faire à l'intérieur. Je vais aussi discuter avec le détenu, parce que si un détenu me demande de mettre en place une chorale, ce serait bien qu'il ait déjà quelques contacts à l'interne pour qu'on puisse mettre quelque chose en place. On a eu des demandes, par exemple, musique. Quelqu'un est venu, il m'a dit, j'ai un groupe, on aimerait faire du rap. À ce moment-là, on réunit les détenus, on parle avec eux, on regarde ce qu'ils ont besoin. On regarde s'il y a un investissement à faire, achat de matériel, ce genre de choses. Et on prévoit des soirées pour qu'ils puissent travailler à leur texte et à leur musique. Et dès le départ, ce groupe m'avait demandé d'organiser un concert. Donc l'atelier s'est très bien déroulé. Ils sont arrivés au concert, on a invité les détenus qui sont sur place, plus les intervenants. On avait pu inviter les intervenants pour que les détenus puissent présenter leur travail. Après, il peut y avoir des demandes ou des propositions. On a eu, par exemple, du théâtre. Quelqu'un était venu me proposer d'animer un atelier théâtre. C'est la première fois qu'on mettait en place cette activité. Donc à ce moment-là, on fait déjà une espèce d'enquête pour voir l'intérêt des détenus pour une activité comme celle-là. Et s'il y a un intérêt pour cette activité, on l'introduit. Au départ de l'activité, il était exclu pour les détenus de faire une présentation de ce qu'ils allaient faire dans cet atelier. Donc dès le départ, ils se sont dit « Non, non, nous on veut travailler, on veut... » travailler la parole, le texte, ce genre de choses, les postures, mais on ne veut pas faire de représentation. Donc voilà, on a accepté de démarrer comme ça. Dans ce genre de cas, je ne vais pas mettre d'obligation. Je pense que c'est bien si les gens participent déjà à une activité. Mais très rapidement, au bout de quelques mois, on s'est rendu compte qu'il y a une autre demande qui est arrivée et à ce moment-là, ils étaient prêts pour une représentation. Donc des fois, il faut y aller gentiment, ne pas forcer, et les choses se mettent d'elles-mêmes en place. Donc là, on a pu effectivement faire une représentation, et ils ont pu montrer leur pièce et leur travail. Mmh. Ensuite de ça, on a des gens qui peuvent nous... Il m'arrive régulièrement d'avoir juste un coup de téléphone. Le dernier projet en date, c'est avec Delphine, qui un jour me téléphone. Voilà, Delphine, on s'est déjà croisé, j'ai quelque chose, j'aimerais te proposer quelque chose, une activité en interne. On s'est rencontrés, on a discuté de ce projet. L'idée du projet, c'était de présenter le théâtre. Qu'est-ce que c'est que le théâtre? Et de montrer, donc vraiment travailler le... En fait, ils venaient répéter. L'idée, c'était de venir répéter à l'intérieur et d'inviter les détenus à venir regarder ce que c'est que le théâtre et éventuellement susciter l'envie par la suite. Quand on s'est rencontrés la première fois, alors c'est clair, je prends les informations comme ça. Très vite, les questions, comment va-t-on proposer aux détenus de venir voir ce que c'est qu'une répétition? Et là, j'ai lancé juste un petit caillou dans la mare. Je leur ai dit, alors moi, je rentre en matière, mais j'aimerais que votre répétition, la première répétition, elle se fasse dans le cellulaire. Qu'on aille vraiment sur le terrain et montrer ce que c'est que le théâtre. Et après, on s'est mis dans un coin un peu plus tranquille parce qu'ils venaient aussi pour travailler. Et à ce moment-là, on a invité les détenus à venir se déplacer à la chapelle chez nous. Donc c'est une expérience, je crois que c'était vraiment la première fois qu'on allait vraiment à l'intérieur, dans le cellulaire, présenter quelque chose comme ça. Bien sûr que j'avais plein de questions. Comment ça va être pris? Parce que là, on rentre, on se met vraiment dans leur lieu de vie, hein. Et on s'est vite rendu compte que ça a créé un mouvement. Il y a le Canal Déchaîné qui était là pour filmer ses premières répétitions, ce qui a créé un peu un événement à l'intérieur. Et très vite, on a vu pas mal de gens venir regarder, discuter, repartir, revenir un moment après. Et là, ça a vraiment créé une espèce d'échange entre les différents détenus. Et, c'était un moment assez incroyable.
Mais tu dis que, ouais, justement, que tu te posais plein de questions. Donc ça renvoie à voilà, la question de comment tu sais, est-ce que les personnes avec qui tu travailles sont susceptibles d'être intéressées par les animations, comme par exemple cette pièce de théâtre.
Alors à ce moment-là, on ne mesure pas l'intérêt qu'il pourrait y avoir. On s'impose un petit peu à eux à ce moment-là. Il n'y a pas un travail d'enquête avant de mettre quelque chose en place. Là, on est vraiment venu sur le terrain avec une proposition pour susciter aussi un peu l'intérêt. Je pense que c'est important d'amener ce genre de choses.
Et est-ce qu'il y a de la stabilité dans l'intérêt des personnes pour ce que tu proposes
Alors,
t'as le sentiment que c'est un enjeu permanent que de faire venir des gens à ces ateliers que tu proposes, ou là, en l'occurrence, ce projet-là.
Alors, plus l'activité a duré dans le temps, plus on avait un peu de monde qui venait. Il a fallu un peu de temps pour que les gens viennent. Les premières répétitions, c'était peut-être une, deux personnes. Et à la fin, on s'est retrouvé 5-6 personnes, ce qui est déjà intéressant. Mmh. Quand on a les activités du soir, tels que l'atelier d'écriture, photo, dessin, sculpture, quand les gens s'inscrivent à ce genre d'activité, donc ils doivent s'inscrire, et là on leur demande d'avoir un rythme, venir régulièrement, de s'excuser si tout d'un coup ils ne peuvent pas venir. Et ça c'est vraiment une demande qu'on pose au départ. Mais quand on vient avec ce genre d'activité, on n'a pas d'exigence, on vient, on présente, et l'idée c'est de les faire venir, et, comme j'ai déjà dit. Susciter l'envie.
Donc, vous étiez quand même donc confronté à un risque que...
Voilà. Alors, très clairement, on ne savait pas du tout comment ça allait se partir. Ouais. Surtout que c'était la première fois qu'on rentrait avec du théâtre dans le cellulaire. On vient un peu chez eux, effectivement,
avec,
on ne sait
avec
pas...
Avec une pièce qui parle de prison.
Avec une pièce qui parle de prison, c'est juste. Ouais.
Bien. Et puis, je voulais encore te... Alors, par rapport à ça, tu m'as parlé du fait que tu pouvais engager... comme tu as dit pour l'atelier sculpture, comme tu peux engager les personnes qui viennent de l'extérieur, ce que vous appelez, je crois, des intervenants auxiliaires.
Exactement.
Justement, c'est pas... Comment tu trouves ces intervenants auxiliaires? Comment tu les choisis? finalement, justement, compte tenu du risque de l'install, enfin, du fait qu'on ne sait pas exactement s'il y a des désirs à l'intérieur ou si ça va répondre à des intérêts à l'intérieur, comment tu gères ça par rapport à trouver ces intervenants auxiliaires? C'est facile d'en trouver aussi.
Non, alors c'est jamais facile de trouver les auxiliaires. Des fois, le hasard fait bien les choses. Et on a des téléphones qui nous disent « Voilà, je fais ça, j'aimerais pouvoir le proposer chez vous. » Mais ça reste quand même assez exceptionnel. Et, je pense que pour trouver les gens, il faut avoir un réseau. Et puis, c'est faire des téléphones, de demander. Et on trouve... On a eu des intervenants qui sont venus chez nous, hein, à travers Prélude. Et avec ces gens-là, on garde contact. Est-ce qu'il nous permet des fois de nous sauver dans certaines situations, qui nous permet de retrouver quelqu'un, ouais, pour l'activité. Donc c'est vraiment une histoire de réseau.
Mais donc ces postes d'intervenants auxiliaires, donc ouais, c'est pas comme Prélude, c'est des personnes payées par le service pénitentiaire.
C'est l'État de Vaud qui les paye.
Ouais, d'accord. Ouais,
ils sont engagés par l'État de Vaud.
Et c'est des contrats.
C'est des contrats de l'auxiliaire de durée qui sont bien définis.
Déterminés. Ouais. Ok. Et puis, pour poursuivre là-dessus, donc voilà, tu nous décris l'enjeu de savoir qu'est-ce qui peut susciter un intérêt, et la difficulté. Donc, d'un côté, c'est difficile de maîtriser, de savoir qu'est-ce que les gens à l'intérieur. Et puis, d'un autre côté, c'est aussi pas évident de trouver des gens de l'extérieur qui viennent.
Non, voilà, c'est un peu un jeu, ouais.
Ouais. Et par rapport à les résultats, donc tu nous as dit que quel est ton point de vue, l'enjeu, donc une des questions est de savoir dans quelle mesure est-ce qu'on ouvre des ateliers avec l'exigence de résultats dès le début. Ce qui est Prélude, voilà, quand Prélude propose un projet, il y a cette exigence de résultats,
ouais,
avant même d'ouvrir l'atelier. Toi, tu me disais, voilà, que ça peut aussi poser cette question du résultat, comment tu la vois, toi? Est-ce que pour toi c'est un objectif que le plus d'ateliers possible débouchent sur une création?
Alors le résultat, il est, on peut jamais le garantir, parce qu'il peut y avoir des mouvements, des changements, des gens changent de pénitencier, ce genre de choses, et tout d'un coup le projet il est mis en péril. Dans mes activités du soir, il n'y a pas d'exigence. Il y a le cours de guitare, on ne va pas lui dire on veut que vous arriviez à ce niveau-là, on veut que vous fassiez un concert. Ça ne rentre pas, on ne va pas rentrer là-dedans. Par contre, c'est clair que si une association telle que Prélude vienne, eux ils viennent avec des intervenants, donc c'est vraiment un plus pour nous, parce qu'ils arrivent vraiment avec une équipe complète derrière.
Donc avec nos propres intervenants.
Avec les propres intervenants que Prélude engage. Donc ça, c'est toute une recherche que je n'ai pas besoin de faire. Et c'est vraiment un très gros avantage pour nous, et c'est vraiment un plus. Alors bien sûr que quand Prélude arrive, ils ont déjà un projet qui est bien ficelé, ils ont des fonds, et bien sûr qu'eux, ils ont une exigence, c'est le résultat. Mais nous, on ne peut pas le garantir complètement. Et c'est clair que... Effectivement, quand les gens arrivent avec une exigence, quand même, ça met une certaine pression. Mais on est clair, dès le départ, avec les participants. Quand on fait une présentation aux participants, on leur dit, voilà, on aimerait faire ça, on aimerait arriver à ça, et on vous demande de vous engager à ça. Après, il n'y a pas de contrat vraiment... Enfin, il serait difficile à tenir, le contrat. Hein. Ça dépend de tellement de choses.
Et alors, en fin de compte, peut-être une question un peu naïve, mais en fin de compte, toi, comment tout ce travail que tu mets en place, ces ateliers, ce partage entre des personnes de l'extérieur et de l'intérieur, quel est l'attrait finalement? Comment est-ce que tu vois l'attrait de tout ce travail pour les détenus?
Alors, quand les détenus sont prêts à montrer ce qu'ils font dans les ateliers, parce que c'est pas forcément facile dès le départ, je pense que c'est un passage qui est très important. Et on se rend compte, j'ai fait l'expérience avec le projet Œil ouvert. Je pense que le moment le plus important pour eux, c'est quand ils ont pu présenter leur film aux familles. Donc on savait qu'on allait pouvoir le montrer dans des salles de cinéma à l'extérieur. Mais ça, c'est passé, c'était important pour eux, c'est clair, mais ça a passé un peu en second plan. Et ce qui était vraiment primordial pour eux, c'était de pouvoir montrer quelque chose fini et de qualité aux familles et aux proches. Et on se rend compte que c'est quelque chose qui est un élément essentiel quand on arrive au bout d'un projet.
Donc partager avec des
Avec des
Ouais,
proches.
pas seulement avec le dehors en général, mais avec des cercles restreints, des proches, ou même à l'intérieur de la prison.
Alors, c'est clair que des projets tels que le théâtre ou différents projets à l'intérieur de nos murs suscitent déjà un échange déjà entre eux, hein, entre les détenus. Quand ils sont en train de monter un projet, souvent ils sont plusieurs pour arriver à un résultat et ils sont bien obligés de communiquer entre eux, ce qui n'est pas forcément évident dans le quotidien, où c'est plutôt des gens qui sont individuels et qui font leur petit bout de chemin de leur côté. Tout d'un coup, là, ils sont dans un atelier où ils sont obligés de faire avec celui qui est à côté. Dans les films, il y en a un qui était au montage, l'autre au son, à la caméra, et à un moment donné, il faut trouver un terrain d'entente entre tous ces gens-là. Donc là, ça crée un échange. Et il y a un échange aussi avec la sécurité. Parce que ces gens, on les retrouve ensemble, il y a quand même quelques agents de détention ou d'autres membres du personnel qui posent un peu des questions. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe dans ces ateliers? Et là, il y a déjà un échange à ce niveau-là.
Donc voilà, cette idée d'un partage qui est à la fois entre le dehors et on pourra revenir là-dessus sur l'intérieur et l'extérieur, mais aussi c'est vrai dans les cercles à l'extérieur, enfin à l'intérieur de la prison ou à l'extérieur, quand on organise aussi un festival comme ça où les gens partagent entre personnes qui restent à l'extérieur.
D'ailleurs, quand on était venu la dernière fois à la colonie, dans le cadre du projet que tu évoquais, il y a eu un petit moment d'échange avec le chef de maison qui était tellement étonné de voir le bonheur qu'il me faisait de me prêter sa poubelle comme accessoire de théâtre. Il a dit, ça vous va ça? C'est génial! Puis je pense qu'il a dû nous prendre pour des dingues, des doudingues, mais c'était un bon moment d'échange.
Et c'est pour ce genre d'échange que depuis maintenant plusieurs années, tu as fait un projet Prélude. Enfin, c'est pour ce genre d'échange que tu vas en prison.
Alors, il y a vraiment quelque chose que j'apprécie, dont j'ai besoin, qui est récurrent effectivement dans les choix que je fais, c'est de transversal, c'est-à-dire de se retrouver à collaborer, à essayer de se comprendre en n'étant pas des mêmes, soit compétences, soit métier, soit milieu, soit. C'est assez récurrent dans ce que je choisis. Et puis c'est vrai que la création ou le travail théâtral en prison nous expose beaucoup à ça, que ce soit par l'aspect des langues, je veux dire. Bon, je pense que de plus en plus aujourd'hui, les populations incarcérées sont indissociables des questions de la migration en termes des parcours. Enfin, je veux dire, il y a quand même énormément. Moi, je travaille en préventive avec une petite pause actuellement au Bois Mermet. Et on a quand même l'impression que ce sont des conséquences en fait de migration ou alors de réfugiés politiques, économiques et autres. Finalement, c'est une. Il y a une grosse proportion de ce type-là de délinquance, de délit, qui a l'air d'être une conséquence d'exil de toutes sortes. Hein.
Donc ils sont pas seulement différents de toi parce qu'ils sont en prison, mais aussi parce qu'il y a une diversité culturelle énorme, quoi.
Alors, oui, bon, on est tous différents les uns des autres. Ils sont différents de moi, ils sont différents d'eux, ils sont différents de. Enfin, tout le monde est différent. Mais simplement, pour reprendre la question que tu posais avant, effectivement, le fait de pouvoir se rencontrer à travers un outil artistique et faire converser des provenances, qu'elles soient sociales, économiques, de toutes sortes, c'est ce qui m'intéresse dans le théâtre. Mmh. Et j'ai beaucoup, il y a une dizaine d'années, commencé à avoir besoin de quitter en fait les salles de théâtre parce que j'avais l'impression qu'on avait tous le même stigmate. D'ailleurs, on jouait pour la famille des théâtreux, donc c'est ce qui se passe quand même. Et puis je vais stigmatiser, mais j'ai pas vu souvent des gens de couleur dans les publics. Et à un moment, j'ai commencé à me dire, mais pourquoi est-ce qu'il y a toujours que des blancs? Il y a beaucoup ça en Suisse, en tout cas. Hein. Je sais pas comment c'est chez vous en France. Mais... Et voilà, alors on se dit, bon, alors effectivement, alors voilà, on se parle entre nous, à nous. Alors évidemment, je fais des amalgames, mais ça m'a posé des questions.
Mmh. Alors tu dis que tu viens de la famille des théâtreux, mais pour revenir, toi qui a exercé au titre d'intervenant auxiliaire justement ces positions extérieures, qui reçoit un mandat à durée déterminée pour travailler à Bois-Mermet, donc, où elle fait ses ateliers théâtre. Alors, est-ce que tu as quitté la famille des théâtreux pour intégrer la famille de la prison? Est-ce que ce poste d'intervenant auxiliaire, qu'est-ce que tu peux nous dire de cette position que tu occupes quand tu vas en prison?
Alors, quand je vais en prison, je colle volontiers, je vous révèle un petit secret parce que je trouve que c'est intéressant, mais c'est devenu un outil pour moi. Je colle volontiers à l'image qu'on se fait de moi, que je suis l'artiste un peu dingue. Parce que Dieu sait que cette étiquette, on a envie des fois de la faire bouffer aux gens qui pensent que les artistes sont tête en l'air et se réveillent à 2h de l'après-midi. Mais par contre, quand je me suis rendu compte qu'en prison, je pouvais, ça pouvait représenter une espèce de soupape pour plein de gens et me permettre d'avoir plus de liberté, j'ai commencé à l'utiliser. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai l'impression que autant les surveillants que les gardiens, etc., ont besoin de ce côté dingo, libre. Ils ont besoin de me voir là-dedans, ça fait du bien à tout le monde. Et puis, moi, avec ça, je me permets d'avoir quelque chose de l'électron libre. Je ne sais pas vous voyez ce que je veux dire, mais effectivement, je me permets de faire plein de choses avec cette chose-là.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le risque, dans le même temps, justement, en étant électron libre, auxiliaire, d'avoir de la peine est-ce que tu peux en même temps avoir cette position-là et puis faire ton trou avec ces ateliers?
De toute manière, cette histoire là, j'ai travaillé pendant 4 ans comme auxiliaire et c'est fini pour l'instant parce qu'on a ce problème administratif qui fait qu'on ne peut pas renouveler plus de 4 fois le contrat à durée déterminée d'auxiliaire. Donc ça, c'est un fait. À l'intérieur de ça, c'est dommage parce que c'est le moment où le lien, où on commence à comprendre un petit peu ce qu'on fait, c'est le moment où des liens se créent, c'est le moment où on... Oui, c'est simplement le moment où on enracine un propos, parce que c'est vraiment travailler en atelier théâtral en préventive, c'est pas facile du tout. On a des paramètres qui font que... C'est à prendre ou à laisser, mais il faut apprendre. Pour le théâtre, je dis, c'est très compliqué de faire quelque chose avec le fait qu'on a des gens qui sont là puis qui ne sont plus là la fois d'après, puisque toute une série de choses passent avant l'atelier théâtral, ce qui est tout à fait compréhensible. Tout à coup, ils ne sont pas là parce qu'ils doivent aller voir l'avocat, ou l'avocat vient les voir, ou bien parce qu'il y a une visite, il y a un parloir, ou bien parce qu'il y a du médical, ou bien parce que ce jour-là, c'est le sport, et puis on leur propose une fois de choisir. On leur propose de choisir entre le sport et le théâtre, mais parfois c'est juste pour une fois, donc on dit bon bah vas-y, juste une fois, il n'y a pas de problème. Et puis, du coup on se retrouve aussi avec des groupes dont on ne sait pas si la prochaine fois un tel sera là, et puis il arrive aussi que on se retrouve sans aucune langue de référence commune parfois. Je veux dire, même certains peuvent servir de traducteur à d'autres, mais il est arrivé à plusieurs reprises que ce soit 4 langues différentes. Et puis, voilà, il y a aussi l'impossibilité de présenter un travail à cause d'arguments de sécurité. Enfin, je l'ai demandé à plusieurs reprises, ça n'a pas été possible. Bref. Avec ça, malgré toutes ces difficultés-là, on peut faire des choses, et quand on commence à comprendre avoir développé un petit peu des outils qui permettent cette fois de faire ça, 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 au cas par cas, eh ben, c'est vrai que tout à coup, là, moi, je ne peux pas, à cause de cet aspect administratif, continuer. Enfin, je l'appelais administratif, mais je ne sais pas comment l'appeler. Je n'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. Dernièrement, quelque chose que je voulais faire depuis longtemps aussi, que j'ai la possibilité de faire et que j'ai utilisé, c'est de faire, moi, appel à des gens de l'extérieur, parce que certains groupes sont très portés sur l'improvisation, certains groupes sont plus portés sur la poésie, d'autres sur la musique. Et puis, je m'étais dit, j'ai envie de leur faire connaître, pour qu'ils ne soient pas toujours juste exposés à moi, des professionnels passionnés avec lesquels il peut y avoir des atomes crochus et de la nourriture. Et j'avais envie de faire un peu une brigade de 10 heures, comme ça. J'avais pensé à des gens autour. Et puis, finalement, j'ai senti qu'avec tel groupe, là, je pouvais avoir de l'intérêt à faire rentrer justement des poètes et musiciens. Et j'ai cette latitude-là. C'est très appréciable qu'on me donne un feu vert et qu'on me fasse confiance et que je puisse... J'ai fait venir Jacques Roman, qui est là, voilà, ça a été très simple. Mon responsable socio-éducatif m'a dit, tu veux, ça fait partie du travail de ton atelier, on te fait confiance, etc. Et tout. Donc, voilà, Jacques, il a juste présenté son passeport. Et puis, je l'ai fait aussi avec une autre partenaire de travail, Ambre Mono, musicienne. Et puis, c'est vrai que ça crée des choses extraordinaires. Et plus on passe de temps là-bas, plus on commence à envisager des modules, à tisser des réseaux, et quelque chose se brise. Et j'ai l'impression que l'histoire des réseaux, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a une machine invisible qui consiste à nous atomiser les uns par rapport aux autres dans le travail en prison.
Ouais, que je vois,
j'ai pas réussi à avoir une personne interne de la prison pendant les 4 ans où j'y étais. Je l'ai proposé, j'aurais peut-être dû l'exiger, mais en même temps ça m'arrangeait bien des fois que personne vienne voir, parce qu'ils se disaient des sacrés trucs, hein. On se dit, oulala, si on veut continuer à faire l'atelier de théâtre, il vaut mieux pas qu'ils entendent ce qu'ils se disent. Il y a une liberté à l'intérieur, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a pas de surveillant, il se dit des choses. Une seule fois, quelqu'un du socio-éducatif est venu et ça a très mal tourné. En fait, c'est moi qui avais demandé que la personne vienne, et puis elle est intervenue en tant qu'éducateur en arguant de la question du respect, parce qu'il y avait des mots. Et trou du cul dans une improvisation comme ça. Et puis moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il se traite de trou du cul en tant que personnage dans le jeu et tout. Mais du coup, elle a intervenu, du coup, ça a tout faussé les choses. Puis c'est vrai que je m'étais dit. Ben voilà, ça c'est des choses qu'on découvre. Il faut qu'on parle avant, il faut qu'on fasse bien comprendre quel est le champ d'action de l'un, où il s'arrête, où il commence. Et pendant les 4 ans, je n'ai pas eu de visite ni des cadres, ni de la direction qui disait que c'était très important que le théâtre existe en prison, ni même du responsable socio-éducatif, ni même des autres professeurs d'atelier, des autres intervenants d'atelier. Et moi-même, je n'ai pas rendu visite.
Mais justement, pour une dernière question par rapport à ce... La question du résultat, finalement, toi qui as fait un projet Prélude, puis ces ateliers, tu dis là, il n'y a personne qui vient voir, ou quand il y a quelqu'un qui vient voir, ce n'est pas forcément évident, tout n'est pas prévu pour ça. Tu arrives à dire quel est ton regard, simplement depuis Prélude, avec ce projet où tu avais vraiment monté sur scène une pièce de théâtre avec des détenus, etc. Puis quelque chose ici de beaucoup plus confiné, où tu fais un autre type de travail. Pour toi, c'était cet enjeu du résultat, d'avoir une création. Ça, c'est quelque chose que tu désires.
Non, moi, ce que je désire maintenant, à l'intérieur de ces différentes expériences, il y a eu un épisode aussi à la Tuilière à Launay, avec des femmes incarcérées. Qui m'a aussi donné un nouvel éclairage. Ça m'a juste donné ce qui se passe quand on nous dit faites ce que vous voulez. Enfin, faites ce que vous voulez. Oui, venez faire un travail avec ces dames théâtrales, mais qu'en même temps, allez-y. Et puis, c'est votre boulot. Et puis, on soutient pas forcément derrière. Ça s'est passé comme ça à la Tuilière, il n'y avait pas du tout de suivi interne du travail ou du directeur qui défend le projet ou qui en parle, ou les surveillants ne savaient même pas quand je venais. Enfin, certaines fois, on refusait de m'ouvrir la porte parce que je n'avais pas été annoncée ou des choses comme ça et tout. Ce qui n'est pas du tout le cas, par exemple, avec Marco, quand on intervient aux EPO, où il y a vraiment une navette, enfin, un aller-retour entre et le personnel de la prison et les personnes incarcérées et l'équipe artistique. Et ce n'est pas non plus le cas à Bois-Mermet, où j'interviens. Il y a un regard du service socio-éducatif sur ce qu'on fait. Et ils ouvrent des portes. Mais par contre, à la Tuilière, je me suis juste dit, c'est pas possible de faire une expérience s'il n'y a pas un soutien dans la maison au quotidien. Enfin, je veux dire, dans les gens avec qui ils vivent. Et c'est juste pour dire ça. Et à ce niveau-là, ces différentes positions m'ont juste donné envie par rapport à que l'initiative vienne de l'intérieur. C'est-à-dire que jusqu'à présent, dans toutes ces expériences, c'est moi qui suis venue avec l'idée géniale, avec cette envie de communiquer quelque chose et de monter quelque chose ensemble, ou de faire naître des vocations, ou de montrer, ou de partager la fantastique aventure du théâtre, et voilà, avec une espèce de prosélytisme. Et puis, c'est vrai que ça tord beaucoup de choses. Ça tord beaucoup de choses d'avoir les idées pour les autres et de savoir ce qui est bon pour les autres. On a envie de répondre à des demandes, qu'elles soient de la part des gens qui sont en peine ou qu'elles soient de la part du personnel, enfin des gens qui travaillent dans la prison. Je rêverais qu'un directeur de prison me dise « Écoutez, c'est tellement important ». On vous appelle, on va trouver comment on va faire la chose ensemble, mais on le fait.
Exactement.
Aussi. Bien que, justement, ça vienne de gens qui purgent leur peine. Et puis voilà, puis, pour l'instant, c'est pas le cas. Et puis, des fois, je me dis juste que je plante les graines. Plante les graines pour essayer de se dire que le théâtre est à la portée de tout le monde, qu'on peut, on peut susciter une envie. Ouais. Mais...
Et que peut-être l'initiative pourrait venir une fois de l'intérieur.
Voilà, et du coup, que si ça pouvait venir de là, effectivement, la question de est-ce qu'on va et on montre quelque chose, à Bois-Mermet, ça s'est posé à plusieurs reprises. Il y a une demande de la part du groupe qui a dit il faudrait qu'on le montre. On sait qu'on ne pourra pas le montrer à l'extérieur, mais on aimerait bien le montrer à nos co-détenus, ou on aimerait bien le montrer aux gardiens, on aimerait bien le montrer au reste de la prison. Mmh. Et puis, je n'ai pas réussi à obtenir les autorisations. Mmh. Et après, ils ont dit ouais, mais on pourrait le filmer, puisqu'il y a un atelier de vidéo. Et puis, j'ai dit, oui, d'accord, ben, parlons-en avec le responsable de l'atelier vidéo. Et puis, tout à coup, c'était... Ah non, j'ai pas envie qu'on voit mon visage. J'ai pas envie, en fait, qu'il y ait des traces de moi en prison. J'ai pas envie qu'on voit ça plus tard, un jour. Et puis, bon, si c'est pour flouter, non, tant pis, on fait pas. Et tout.
Ok, merci. Ouais. Ouais, par rapport à cette question de l'initiative, alors toi, tu décris bien cette difficulté à trouver des gens... de savoir qu'est-ce qu'ils veulent, etc. Toi, tu décris que, à force d'avoir un atelier, potentiellement, il peut y avoir une initiative. Enfin, voilà, on peut commencer à développer quelque chose qui a un semblant de qui vient de l'intérieur. Mathieu, je vais te demander par rapport à. Pour peut-être sortir un petit peu juste de la prison, de la question, c'est qu'à l'extérieur, d'avoir des initiatives comme Prélude où on vient de l'extérieur vers la prison pour faire quelque chose, ensuite on sort, on voit qu'il y a un certain succès, qu'il y a une certaine ouverture, un accueil positif de la part des institutions artistiques pour s'ouvrir à des projets de ce type. Si on réfléchit à Prélude, on se rend compte que depuis 2006 ça a été créé, on a quand même régulièrement pu obtenir des fonds relativement importants pour faire des projets, des fonds donc issus des institutions culturelles pour faire des projets en prison. Donc il y a une tendance à l'extérieur qui rend ça possible, mais dans un sens peut-être plutôt que dans l'autre. J'aurais voulu, toi qui as dirigé des théâtres, du point de vue de l'extérieur, comment est-ce que tu peux expliquer cette ouverture à des projets qui viennent... Enfin, on va les chercher à l'intérieur et puis on les ressort, mais en fait, ils ne sortent pas forcément directement de la prison à nous. Mais qu'il y a quand même ce mouvement. Est-ce que tu arriverais à à mettre en contextualiser ce pourquoi de l'intérêt d'avoir des projets avec des publics non habituels, avec des participants non habituels à des créations artistiques à l'extérieur. Et l'intérêt aussi même économique de ce genre de choses, politique, je ne sais pas.
Je pense qu'il ne faut pas s'exagérer l'intérêt des institutions culturelles pour ce genre de pratique. Néanmoins, on peut observer qu'il se développe. Et je pense que cela tient à une forme de mauvaise conscience des milieux culturels et des milieux politiques aussi. Parce qu'on vit probablement une époque où les deux manières d'articuler culture et démocratie vivent une forme de crise ou d'échec relatif. Je parle de deux manières d'articuler culture et démocratie. La première manière, c'est ce qu'on a appelé la démocratisation culturelle, qu'on appelle toujours la démocratisation culturelle. Et puis l'autre manière d'articuler ces deux notions, c'est ce qu'on appelle la démocratie culturelle. La démocratisation culturelle, nos camarades français connaissent ça mieux que nous, a débouché sur la volonté de considérer qu'il y avait une culture au singulier, avec majuscule, qu'il fallait diffuser parce qu'elle était un bien commun, parce qu'elle était une forme d'universalité qui devait profiter à chacun. Il fallait la diffuser largement et on considérait que les principaux obstacles dans l'accès à cette culture étaient des obstacles physiques, d'où la décentralisation géographique, que Paris ne soit pas juste un cœur, et c'est quelque chose qu'on a vécu en Suisse romande aussi, avec un nombre important de théâtres municipaux créés dans les années 70 et 80. Et puis l'autre obstacle semble être un obstacle social, mais de type tarifaire. Il faut que les politiques de prix s'adaptent. Et de fait, pendant 40 ans, on a dépensé des centaines de millions de francs pour aller dans le sens de cette démocratisation culturelle en observant ce que j'appelle un échec relatif et pas un échec absolu pour savoir ce que serait l'actualité de la sociologie des publics s'il n'y avait pas eu cet argent injecté ni ces institutions. Par bonheur, on ne saura jamais, hein, on n'aura jamais le comparatif. Mais on peut observer qu'il y a toujours 10-13% d'une population qui vont au théâtre, pour prendre cet exemple-là que je connais un peu mieux, et non pas au-delà de ce pourcentage. On observe toujours 40%, 45% des couches favorisées d'une population qui vont traditionnellement au théâtre, et seuls 3 ou 4% pour ce qui est des ouvriers sans qualification ou du monde agricole, du monde paysan. Il y a toujours une exception qu'on agitera en révélant combien un tel a quand même goûté à la culture. Alors on a observé, et la sociologie critique en a fait un peu son beurre, on a observé qu'il y avait des limites plus retorses, plus perverses dans l'accès à la culture que les limites que j'évoquais tout à l'heure, des obstacles symboliques, des obstacles cognitifs, des obstacles psychosociaux dans l'accès à la culture qui sont beaucoup plus pervers et qui font que même si un musée est déplacé en province en face d'un HLM et que le dimanche la visite est gratuite, s'il n'y a pas envie de se rendre dans ce musée, on n'y ira pas davantage parce qu'il est devant chez soi ou parce qu'il est gratuit. Donc je trouvais intéressant d'entendre Marco évoquer la volonté de partir de la demande. C'est une vraie valeur, effectivement, dans le travail social et notamment dans l'animation socioculturelle, partir de la demande. Mais Bourdieu et les sociologues critiques opposent cette autre vérité qu'il y a absence du sentiment de l'absence dans certaines couches sociales. Parce que le goût culturel n'est pas comme un don, quelque chose d'inné, qui serait réparti par la grâce de Dieu en chacun. Non, le goût culturel est quelque chose qui a des soubassements sociaux, des soubassements familiaux, des soubassements économiques, des soubassements symboliques, et d'une certaine manière, il faut être proactif pour diffuser cette universalité, cette culture comprise comme bien commun. Les limites de la démocratie culturelle, qui est partie, elle, de la considération suivante, chacun a une sensibilité, chacun a une aptitude créative, c'était d'inviter chacun à s'exprimer dans son pré carré. D'une certaine manière, la distinction sociale des pratiques culturelles était maintenue. On a observé que chacun parqué dans sa culture, ça n'est pas non plus une solution pour la communication sociale. Et puis d'autre part, est-ce que finalement nos pratiques culturelles, nos goûts culturels ou l'absence de goût émane véritablement du libre choix de chacun, ou est-elle le produit des conditions sociales, culturelles, économiques qui vous sont faites? Est-ce que finalement, dans le peu de goût culturel qu'a un tel et le goût très développé tel autre, est-ce qu'il n'y a pas là plutôt le fruit d'une inégalité à la base, est-ce qu'il y a véritablement le goût personnel qui s'exprime. Donc on a finalement ces deux politiques culturelles très distinctes qui entrent à peu près en crise. Et une manière de résoudre cette crise, de toucher ces non-publics de la culture, peut s'exprimer de deux manières. Soit en allant dans le sens de la médiation et en tenant compte précisément désormais de ces obstacles symboliques, cognitifs, psychosociaux, et en intégrant à même le dialogue avec la culture le fait que les personnes auxquelles on s'adresse ont aussi des représentations, qu'il s'agit de mettre en débat avec les œuvres et donc de prendre en compte ces représentations et de ne pas voir en l'autre qu'un tonneau vide, un réceptacle qu'il s'agirait de remplir. Et puis la deuxième politique, c'est celle de la création partagée dont on parle. C'est une ambition grande que de parler de création partagée, on pourrait parler aussi de projet artistique collaboratif, d'intégrer les populations à même la production et non pas une fois l'œuvre terminée, conçue par les seuls professionnels de la culture. D'une certaine manière, j'ajoute encore ceci pour la question de Benjamin, on est aussi dans un moment propice du point de vue de l'art contemporain. Longtemps, on a considéré que le paradigme qui dominait l'art était le paradigme classique, la recherche d'un beau, j'employais le terme universel, un beau qui tient de l'ordre de la perfection, un beau qui est rattaché à des savoir-faire et qui faisait de l'artiste une personnalité tout à fait singulière. Et à partir de la Renaissance, à partir des Lumières, il y a eu une confiance en l'homme qui a permis de considérer que l'homme, politiquement, mais dans le domaine de l'art aussi, pouvait devenir son propre démiurge, l'inventeur de ses propres règles, et n'était pas forcément obligé de respecter des règles héritées. Et l'art contemporain est né de ce paradigme de la fin du XVIIIe, de ce paradigme qu'on peut dire romantique et qui, je pense, influe encore l'art contemporain, un paradigme qui considère qu'il y a effectivement en tous une veine sensible, en chacun la possibilité de s'inventer ses propres règles artistiques.
Mais alors, si on revient à la question de la prison, cette question de en chacun cette veine artistique, comment, lorsqu'un artiste tente un projet participatif en prison, comment on peut interférer? On peut penser le fait que ça interfère assez fortement avec l'idéologie autour de l'enfermement, la façon dont elle doit rééduquer l'individu, dont on doit aller chercher en lui justement ce quelque chose qui lui permette de se réinsérer dans la société, etc. Comment vois-tu, est-ce que tu peux dire quelque chose sur à la fois la promiscuité et puis la différence entre l'intervenant social, le travailleur social, l'idéologie du travail social et la perspective d'une création partagée. Parce que finalement, on peut se dire, on va chercher à chaque fois dans le dispositif carcéral la petite graine chez chacun pour qu'il devienne quelque chose d'autre ou de meilleur, etc. Ça peut interférer, ça peut...
Non. Oui, c'est une question à laquelle il est difficile, là aussi, de répondre de manière absolue. Quelle collaboration entre le travailleur social, entre l'artiste, quand est-ce que les logiques se confrontent, quand est-ce qu'elles peuvent se conjuguer? D'une certaine manière, il n'y a pas qu'une fonction du social, il n'y a pas qu'une fonction de l'art. D'ailleurs, certains s'opposent à l'idée qu'il y ait une fonctionnalité possible de l'art. Ce mélange de vocabulaire sociologique et esthétique ne convient pas à un certain nombre d'artistes. Mais alors, les fonctions, par exemple, du social, prenons dans l'ordre les fonctions du social et peut-être quelques fonctions qu'on peut reconnaître à l'art ou qu'on a pu reconnaître à travers le temps à l'art. Les travailleurs sociaux, c'était le sous-titre d'un bouquin qui a fait Flores dans les années 60, peuvent se concevoir comme agents d'intégration ou comme agents de subversion. C'est finalement la considération que l'on a critique ou adhésive à l'ordre social qui va peut-être décider de cette fonction que l'on s'attribue. Dans l'histoire du travail social, il y a tout un courant qui rattache l'intervenant social à la fonction de contrôle social. Le travailleur social est né de ces chasse-gueux qui essayaient de stabiliser les conditions économiques et sociales des paroisses, des communes, en évitant le vagabondage, en évitant la mendicité et en la réprimant dans un premier temps. Et d'une certaine manière, après, quand la politique s'est adoucie à l'endroit de cette grande précarité, c'était pour éviter des révolutions que l'on cherchait à adoucir cette, cette peine qu'était la vie précaire au XIXe siècle, quand on a affaire à un monde ouvrier en plein dénuement, paupérisme, livré à l'ivrognerie, on considère que cette ivrognerie est liée à des vices individuels et on considère que la réponse à cette problématique-là, ça va être d'apprendre à ces gens à épargner leur argent, à ne pas le dépenser complètement au cabaret. Ça ne va pas être de dire il faut changer la condition des travailleurs dans les fabriques, condition d'exploitation telle, d'aliénation telle, qu'elles poussent à trouver une consolation dans l'alcool, ou alors dire que s'ils ont un tel problème à finir le mois, c'est pas tellement lié à l'alcool, mais c'est peut-être lié à des salaires insuffisants. Ce serait une autre manière de se penser comme travailleur social, une manière qui serait plus politique, plus militante, et elle existe aussi. Elle existe aussi, certains travailleurs sociaux vont dans les prisons parce qu'ils considèrent qu'il y a des droits des prisonniers qui ne sont pas respectés aujourd'hui, et notamment le droit culturel en est un qui compte. D'autres vont en prison parce qu'ils considèrent que peut se jouer avec des criminels une évolution dans la représentation que l'on a du crime, et notamment ces soubassements sociaux. Détacher le crime du criminel, c'est une tâche qui, alors là, peut faire rejoindre certains questionnements du théâtre. Le théâtre est né dans la Grèce ancienne, au 5e siècle avant notre ère, et la question du crime, du criminel, marque la première trilogie qui nous soit demeurée, celle de l'Oristie, qui est l'enjeu d'un matricide infâme. Il faut expliquer les soubassements de ce matricide. La question de la vendetta, de la vengeance, est au cœur des origines du théâtre. Et d'une certaine manière, il peut y avoir un enjeu là de changer les représentations que l'on a du crime, de considérer, on parlait de migration tout à l'heure, qu'un système économique comme le nôtre, pour des raisons soit de commerce, soit de raison d'État, chosifie l'être humain sous d'autres latitudes, mais même dans nos contrées, comment s'étonner que certains ne réagissent pas d'une manière violente à cette instrumentation, s'en tenir à une lecture psychomédicale du crime, ne pas vouloir avoir la lunette politique ou sociale dans son analyse. C'est quelque chose, je pense, qui peut distinguer les travailleurs sociaux intégratifs ou les travailleurs sociaux militants. Et puis il y a d'autres encore travailleurs sociaux qui considèrent, un peu à la suite d'Herbert Marcuse, que c'est dans les marges que peut naître encore la révolte à un système qui nous étreint, non plus dans la classe ouvrière récupérée, embourgeoisée, mais peut-être chez certains jeunes, chez les migrants et chez les criminels notamment. S'agissant des fonctions de l'art, alors elles sont multiples. Certains disent que dans les grottes de Lascaux, la première apparition, pourrait-on dire, de l'art, même si c'est un anachronisme de parler ainsi, dans ces reproductions d'aurochs, d'ancêtres du taureau, dans les reproductions des éclairs qui zèbrent l'Empyrée, il y a la volonté, par la reproduction, par la représentation de ces premiers hommes, d'essayer de maîtriser quelque chose qui les dépasse. Alors l'art, s'il avait ce pouvoir magique de nous permettre de maîtriser ce qui nous dépasse, on voit tout l'usage social qui pourrait en être fait. Je parlais d'Athènes tout à l'heure. Le théâtre naît en même temps que la démocratie, en même temps que l'histoire. Quel est le point commun de ces éléments-là ? Aristote dit qu'un drame doit être une action terminée. Hein ? Une tragédie doit comporter un début, un milieu, une fin. Ça semble quelque chose de tout à fait simpliste. Mais naturellement, si on décide d'expliquer un crime en partant de l'enfance ou en partant de la journée du crime, c'est l'intellection du crime qui est tout à fait changée. Et de fait, Aristote avait cette conscience qu'en plaçant le curseur ici ou là, eh bien c'est toute l'intelligence de l'agir humain qu'on allait éclairer différemment. Et avoir une meilleure intelligence de l'agir humain, c'est un enjeu majeur pour une démocratie qui livre à chacun le choix, les décisions de la cité. Et l'histoire aussi, qui cherche à savoir quelles causes produisent quels effets, était intéressée par le développement du théâtre. Mais on pourrait parler effectivement de l'art qui servent à la dénonciation du pouvoir, de l'art qui servent à la glorification du pouvoir. Et on pourrait parler aussi de cette veine moderne de l'artiste qui se juge dégagé de toute responsabilité, de l'art pour l'art, qui a été un grand progrès d'une certaine manière à un moment où on rattachait l'art au pouvoir ou alors aux commerçants. Mais d'une certaine manière, moi, je ne connais de liberté que engagée, d'une certaine manière. La liberté ne s'use que si on ne s'en sert pas. Et nous sommes libres pour faire quelque chose de notre liberté. Donc l'art pour l'art est intéressant d'un point de vue analytique, mais du point de vue pratique, se déconsidère quelque peu. Mm-hmm. Peut-être je suis un peu long, donc peut-être juste dire que dans cette collaboration entre travailleurs sociaux et artistes, il y a d'un côté une aptitude du travailleur social à comprendre peut-être les codes particuliers, les codes socioculturels d'une population avec laquelle il a l'habitude de travailler, et du côté de l'artiste, la maîtrise de codes, les codes de son médium, et c'est peut-être dans cette collaboration-là que quelque chose peut se nouer. Mais par-delà cette maîtrise des codes professionnels de l'artiste ou du travailleur social, c'est la question du sens qui importe le plus. Et la question du sens, je pense que ce n'est pas tant les outils que nous avons, que l'on soit artiste ou travailleur social, la question du sens, elle engage l'homme, la femme que nous sommes, et surtout le citoyen que nous décidons d'être.
Et, mais tu parlais de ce... Si on pouvait rebondir, si on pouvait vous entendre sur... Vous avez les deux un atelier de bien plus longue date, permanent, dans les deux prisons au Beaumet et à la Santé. La question, tu parles de la question du... Voilà, de la dimension critique du travail social, de ce discours critique qu'il peut porter, qu'il peut développer. Après, ce... J'aurais aimé que vous disiez un mot de votre point de vue sur ce discours critique. Bon, il peut être produit dans ces espaces, mais après, comment est-ce qu'il est communiqué? Comment est-ce qu'il est exprimé? Et ça, on revient à cette question. Est-ce que, justement, est-ce que le centre de ce que vous faites doit être la communication, de la diffusion donc d'une série de créations à l'extérieur? Où est-ce qu'on place l'enjeu d'avoir des créations à pouvoir diffuser quand on travaille, quand on a un atelier durable dans une prison, en l'occurrence au Beaumet ou à la Santé? Je ne sais pas si...
Caroline, tu veux...
Vas-y, je continuerai.
Non, déjà, juste par rapport au contexte, par rapport à tout ce qui a été dit, déjà, on se retrouve dans les mêmes problématiques. Il n'y a pas de... Le rapport à l'institution et tout ça, c'est le rapport à la question de la création avec les personnes détenues. On est dans les mêmes problématiques. Peut-être quand même la différence par rapport à la question de la manière avec laquelle on est entré en prison. C'est-à-dire qu'au départ, dans les années 90, ça a été une volonté politique, à la fois du ministère de la Justice et du ministère de la Culture. Donc ça, c'est quand même assez fondateur de poser ça de cette manière-là, dans le sens où l'idée, c'était de faire entrer une volonté vraiment de faire entrer des artistes en prison. C'est-à-dire qu'il y avait des activités, on va dire, socio-culturelles à l'intérieur des prisons, mais qui étaient plus, on va dire, animées par des personnes bénévoles qui n'avaient pas forcément de compétences artistiques, mais plus un hobby occupationnel, on va dire. Donc il y a eu cette volonté-là de faire entrer des artistes en prison, et donc un dispositif conjoint, culture et justice. Et ce qui est intéressant, c'est de voir sur 20 ans comment cette chose-là, elle a évolué aujourd'hui. Où de la volonté de faire entrer des artistes en prison, à la fois, je pense, pour engager des vrais processus de travail artistique avec les personnes détenues à l'intérieur des prisons, sur du long terme. Donc là, on ne parle pas encore d'œuvre, mais on parle plus d'un processus de travail. Et donc là, dans le processus, arrive seulement la création partagée, puisque c'est un processus, c'est pas tant l'œuvre qui est produite, c'est plus le processus de travail. Mais aussi, je pense, la volonté de travailler sur la question des représentations de la prison. Donc il n'y avait pas au départ de volonté de venir travailler avec les personnes détenues, mais c'était beaucoup plus large que ça. Donc il y avait ça. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ça a évolué sur 20 ans, puisque ça fait 20-25 ans qu'on travaille dans ce dispositif-là. Et aujourd'hui, on voit que cette volonté d'installer à l'intérieur des prisons des processus de travail artistique sur le long terme arrive aujourd'hui à des collaborations, on va dire, à une offre culturelle, plus de l'ordre de la consommation culturelle, avec des partenariats avec des grosses institutions culturelles qui, elles, offrent une programmation culturelle à l'intérieur de la prison. Donc ça, ça nous pose question, nous qui travaillons de l'intérieur, sur vraiment la construction d'un parcours, je dirais, plus que la volonté de produire une œuvre. L'œuvre, elle est le résultat, et l'œuvre qui va en sortir dans un parcours, on ne la connaît pas, en fait. Hein. On peut pas la... Je veux dire, quand on rentre dans un processus de création partagée, on ne prémédite absolument pas l'œuvre, la forme qu'elle va prendre. Elle va venir de... On peut poser un cadre de fonctionnement, mais la forme de l'œuvre, voilà, elle va être le résultat justement de ce processus-là, de mise en jeu des uns et des autres. Nous, en tant qu'artistes, sur notre propre pratique, et les personnes qui vont participer à l'élaboration, de la conception jusqu'à la fabrication, voilà, dans leur processus aussi d'expérience. Voilà, donc c'est vraiment le résultat de quelque chose de cet ordre-là. Ensuite, l'idée, c'est que de ce processus de travail, évidemment, il va y avoir aussi des enjeux au sein de l'institution même. Et quand on reste longtemps dans un endroit, l'idée, c'est presque, je dirais, de construire un troisième espace à l'intérieur de l'institution. C'est-à-dire un espace qui n'est ni du côté des personnes détenues, où on ne répond pas systématiquement à une demande, ni du côté de l'administration. Et tout l'enjeu aussi, où on ne répond pas non plus forcément à une demande de l'administration. Donc tout l'enjeu, c'est d'inventer ensemble, avec les trois partenaires, quoi, l'opérateur culturel, l'institution et, on va dire, les participants, d'inventer ce troisième espace-là et de voir qui va bouger les choses pour chacun, nous en tant qu'artistes, pour les personnes détenues et aussi pour l'institution.